Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, les 18h à Kinshasa, c'est l'heure du journal. Satisfait du Premier ministre un an après l'installation de son gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge reconnaît cependant que beaucoup reste à faire pour gagner le pari du développement de la RDC. Poursuite à Nairobi au Kenya des consultations sur la paix entre le gouvernement congolais et certains groupes armés. Le conclave s'est tenu ce mercredi pour la 5e journée consécutive sans les rebelles du M23. Notre invité, c'est le président du collectif des organisations de défense des droits et intérêts de jeunes. Jean-Bédel Ilunga salue le dépôt à l'Assemblée nationale de la proposition de loi contre le chômage des jeunes en RDC. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le député national André Mbata de l'UDPS a été élu aujourd'hui premier président de l'Assemblée nationale ce mercredi. Il remplace à ce poste Jean-Marc Kabunda Kabund qui a démissionné de ce poste le 31 mars dernier. Rappelons que le député élu de Dimbelenge au Kasaï central, André Mbata, était le seul candidat à ce poste. Un an après l'installation du gouvernement, le bilan est satisfaisant, mais beaucoup reste à faire. A reconnu hier le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge lors d'une émission intitulée « Face au public » organisée par la RTNC et Top Congo. Il est revenu à l'occasion sur plusieurs aspects socio-économiques, explication de Paul Matendo.
Parmi ces aspects, le Premier ministre a parlé entre autres des élections, de la surchauffe des prix sur le marché, mais aussi des conflits qui opposent les communautés Kasaï et Katanga. Au sujet des élections, Jean-Michel Samalou Kondé rassure qu'elles auront bel et bien lieu en 2023.
En 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur, parce que la CENI va procéder à un enrôlement. Simplement, cet enrôlement va prendre en compte toutes les spécificités demandées par l'ONIC.
Parlant de la surchauffe des prix sur le marché, tout en reconnaissant les conséquences des facteurs exogènes, il appelle les opérateurs économiques à dialoguer avec le gouvernement afin d'atteindre les objectifs sociaux.
Mais nous, nous rappelons les opérateurs économiques et disons, nous devons regarder dans la même direction. Nous, nous avons des objectifs sociaux à respecter. Il faudrait que nous puissions protéger la population. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ces projections ensemble ?
Revenant sur le conflit entre le Katanga et le Kasaï, Jean-Michel Samalou Kondé propose une solution économique.
Ces discussions que nous faisons, c'est pour apporter une thérapeutique économique dans les zones du Kasaï, à court, moyen et long terme.
D'autres questions étaient également abordées, telles que celles relatives à la gratuité de l'enseignement et à la couverture santé universelle.
Merci Paul Matendo pour ces précisions. Poursuite hier à l'Assemblée nationale du débat général sur la loi électorale avec le retour timide des députés nationaux du FCC. La plénière a porté sur des options à lever en ce qui concerne le seuil, l'utilisation ou pas du vote électronique et le mode du scrutin. Les députés du FCC, souvenez-vous, avaient quitté l'hémicycle exigeant un consensus autour des réformes électorales avant d'entamer le débat général proprement dit. Le compte rendu de Michel Kifindangoy.
Les députés du FCC, Adolphe Lumanu, Josué Mufula, Alfani Machozi et Ida Kitoa, pour ne citer que ceux-là, ont marqué de leur présence à la plénière d'hier mardi, à la grande satisfaction de Christophe Mboso, qui les a félicités pour ce geste républicain. Prenant la parole au cours du débat, Josué Mufula a proposé la suppression du seuil électoral et a demandé que soit intégrée dans la loi sous examen la possibilité pour les chefs de l'État de procéder à la mutation des gouverneurs des provinces. Pour la plupart des élus, les candidats gouverneurs et sénateurs doivent être élus par les députés provinciaux et le candidat gouverneur doit être avant tout un député provincial. Un autre groupe a proposé que l'âge des candidats sénateurs soit fixé à au moins 45 ans ou traîner une longue expérience. Le député national Memas Matuku a de son côté proposé l'institutionnalisation de la sanction, notamment pour le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la certification des résultats des élections. Après 90 intervenants depuis le début du débat, le G13 a sollicité 72 heures pour rencontrer toutes les préoccupations soulevées.
Consultation sur la paix entre le gouvernement congolais et certains groupes armés à Nairobi au Kenya. Les délégués partis hier de Goma au Nord Kivu participent aux travaux depuis ce mercredi. Et selon nos sources sur place, ces travaux se poursuivent jusqu'aujourd'hui sans le M23 El Makenga. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Denyangi.
C'est environ 10 délégués seulement des groupes armés locaux du Nord Kivu, partis hier mardi, qui participent à ces travaux à Nairobi. C'est entre autres les délégués de groupe SMC Nyatura, APCLS, de Paul Mwanuka, AFRC de Jetem, ceux des deux factions de NDC Rénové, FPP de Kabidon et UPLC de Mayani de Beni. Selon l'un de ces délégués, ce mercredi, ils sont entendus un après l'autre sur notamment le pourquoi d'avoir pris les armes et ce qu'ils attendraient du chef de l'État congolais pour la pacification de l'Est de la RDC. C'est pour parler se poursuivre ce mercredi, mais selon le directeur adjoint de la communication présidentielle congolaise, un des délégués de la RDC à ses assises, il pourrait s'arrêter aujourd'hui ou demain avant de reprendre ultérieurement. Mais avant cette suspension, précise M. Giscard Koussema, la facilitation prévoirait un échange entre les groupes armés présents et le président congolais Félix Tshisekedi, probablement par visioconférence. Rappelons que ces travaux de Nairobi se poursuivent jusqu'à présent sans le M23 El Makenga, dont les délégués en avaient été expulsés le samedi au motif de ces nouvelles attaques contre les positions des FARDC dans le Rutshuru. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, 6 civils ont été tués et une dizaine de maisons incendiées lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'EDF dans les localités de Masambo et Kilia, secteur de Rwenzori, groupement de Basongora et Malambo. La nouvelle société civile congolaise parle d'un bilan provisoire. À Beni, la correspondance d'André Kitenge.
La dernière attaque a eu lieu mardi vers 16h à Ululu Miyende, une entité du secteur des Rwenzori sur la route Beni-Kassindi. Ici, 4 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées lors d'une embuscade contre 2 véhicules en provenance de Kassindi. Selon la nouvelle société civile congolaise du secteur des Rwenzori, les assaillants ont d'abord pillé les marchandises avant de mettre le feu à ces véhicules. Peu avant, vers 11h, c'est le village de Mouloa, dans la localité de Kilia, en groupement Malambo, qui a été attaqué, causant la mort de 2 civils et des dégâts matériels importants, notamment 4 motos incendiées. Plus tôt dans la matinée, c'est la localité de Masambo qui a été la cible de ces assaillants qui ont incendié au moins 12 maisons de commerce à Kitohobu-Umira, un village de la localité Rugeti. Selon notre source, cette situation a causé le déplacement des habitants vers des milieux plus sécurisés. L'armée qui confirmait elle-même ces attaques souligne à travers le porte-parole de Sokola 1 que les deux forces conjointes FARDC-UPDF ont engagé des poursuites contre ces assaillants. Aucun bilan n'est disponible, a précisé le capitaine Anthony Loushaï. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et puis, 2 morts et 11 personnes prises en otage. C'est le bilan provisoire d'une nouvelle incursion mardi après-midi des rebelles ougandais de l'EDF dans les villages de Kosakosa situés à une 20aine de kilomètres à l'ouest de Komanda au sud d'Irumu en Ituri. Des sources sécuritaires rapportent que parmi les victimes, il y a le chef de ces villages. Cette situation a créé un mouvement massif des habitants. La société civile locale demande au FARDC de traquer au plus vite l'ennemi afin de retrouver ses otages. Le récit d'Ezekiel Mouzalia.
Selon plusieurs sources locales, ces rebelles cherchent à tout prix à se réorganiser après avoir été chassés par l'armée et la MONUSCO la semaine dernière du site du mont Oyo à plus ou moins 13 km de Komanda Centre. Dans leur fuite mardi vers le village Kosakosa, ils ont assiégé vers 20h locales plusieurs habitations dont la maison du chef du village Kosakosa où ils ont commis plusieurs exactions. La société civile locale renseigne que le corps des 2 personnes tuées à la machette et abandonnées sur place ont été découverts après le passage de ces rebelles. Dans leur fuite, ils ont pris en otage 11 personnes, dont le chef de cette entité et toute sa famille, ainsi que des passagers à bord d'un véhicule en panne qui transportait des braises. Contacté, l'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba, indique qu'aussitôt alerté, l'armée est allée à leur poursuite. Pour rappel, c'est depuis 3 jours que plusieurs localités telles que Bamande, Bavonkutu, Takumanza, ainsi que Kandoi sont la cible d'attaque de ces ADF. Bounia, Ezekiel Mouzali, Lia Radio Okapi.
On enchaîne avec le Sud Kivu. Toutes les maisons construites sur des sites impropres seront démolies dans 30 jours. Ainsi en a décidé le gouverneur de province après son passage sur les sites où l'éboulement des terres a coûté la vie à 8 personnes lundi soir dans la commune de Kadutu. Teongwa Bidjekasi s'est dit plutôt déterminé à éviter pareil drame à l'avenir. Il a été joint par Cynthia Bachizina Bizana.
Nous avons terminé les recherches hier, donc nous avons ces bilans qu'on a communiqué depuis hier des 8 personnes décédées et 8 personnes blessées. On a pris les dispositions pour que nous donnons les moyens en ce qui concerne le frais funéraire, mais aussi prendre en charge ceux qui sont blessés. Nous ne pouvons pas continuer habituellement à regarder ces catastrophes et surtout le perte en vie humaine, alors que nous avons déjà listé ces sites. Ils sont une quinzaine dans la ville de Bukavu et dans la province. On a donné 30 jours que le maire, le bourgmestre, va me lister toutes les personnes qui habitent ces sites impropres. Et puis, je vais revenir effectivement pour détruire ces maisons. D'ici aussi l'occasion de sensibiliser la population, de comprendre que quand nous avons déjà listé un site qui est impropre à la construction, que le fait que les gens encore s'entêtent et continuent à y rester, ça expose les vies humaines. Nous ne pouvons pas continuer à assister à cette situation. Donc, nous sommes effectivement décidés à détruire tous ces sites impropres à la construction. Évidemment, le défi reste maintenant de trouver l'endroit pour relocaliser les personnes. En attendant, nous pouvons voir aussi d'autres mécanismes, comment faire partir les gens et les faire loger ailleurs. Voilà, c'est ça le défi.
À Kananga, pendant 7 ans, les enseignants des écoles primaires publiques réclament 3 mois d'arriéré de salaire, les frais de fonctionnement et la prime de la gratuité. Ce mercredi, ils ont organisé une marche pacifique pour solliciter l'implication des autorités. Dans leur mémorandum déposé à l'Assemblée provinciale, ils ont indiqué que leur salaire de février, mars et avril serait bloqué ici à Kinshasa. Ils promettent de multiplier ces genres d'actions pour qu'ils obtiennent gain des causes. Un extrait de leur mémorandum adressé au chef de l'État dans cet extrait choisi par François Kadima.
Nous ne connaissons pas trop comment la chaîne des dépenses publiques est gérée dans notre pays, mais nous savons néanmoins que vous êtes un homme providentiel, car dès votre avènement aux commandes de ces beaux et grands pays, l'enseignant est en train de retrouver petit à petit sa juste valeur. Nous réclamons nos salaires, les frais de fonctionnement des écoles et la prime de la gratuité des 3 mois, février, mars et avril 2022 en cours, pour lesquels l'argent est sans trace jusqu'à ce jour. Interrogé, le gérant de la banque TMB accuse votre gouvernement de n'avoir pas décaissé les fonds inhérents à la paye de ses enseignants. De son côté, le chargé de suivi de la paye des enseignants en province, le directeur provincial du CECOP, Kassai Central 1, déclare que l'argent destiné à la paye des enseignants serait bloqué à Kinshasa pour une raison non encore connue, et c'est au sabotage de la gratuité de l'enseignement de base, alors que monsieur l'ordonnateur délégué général avait déjà réorienté nos salaires vers Equity BCDC depuis le 18 mars dernier.
J'ajoute que le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kassai Central a promis de s'impliquer pour que les revendications des enseignants soient réglées. Clin d'œil sur le sport. Florent Ibengue, l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, a connu un accident de circulation lundi soir après l'entraînement avec son équipe de RS Berkane du Maroc au lendemain de sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Les examens médicaux ont révélé des fractures stables des deux vertèbres lombaires sans gravité. Par ce message exclusif à Radio Kapi, il rassure les Congolais et les auditeurs de la Radio de la Paix qu'il reprendra bientôt ses activités.
Je vous appelle pour vous remercier de tous les témoignages que vous avez pu m'envoyer et puis pour vous tranquilliser aussi, pour vous dire que ça va bien mieux. Bah, vous l'avez vu, j'ai eu un accident de circulation, donc maintenant ça va mieux. J'ai été bien pris en charge, que ce soit par les passants, les pompiers et puis le service médical à l'hôpital. Ils ont vraiment été merveilleux, tous ces gens. Et voilà, je m'en tire avec peu de dégâts, des dégâts légers qui vont pas demander un grand travail pour la consolidation. Donc vous me verrez très bientôt en tout cas. Je vous remercie encore une fois, soyez bénis. Et voilà, que dire de plus à part d'aimer la vie, quoi. Donc voilà, et de la préserver. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci.
Notez que la formation de RS Berkane du Maroc jouera avec le Tupisa Mazembe en demi-finale de la Coupe de la CAF. Match aller le 8 mai à Lubumbashi et match retour une semaine après à Berkane.
Actualité internationale.
La République centrafricaine, deuxième pays le moins développé du monde selon les Nations Unies, a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé en même temps l'usage des crypto-monnaies. Il s'agit du premier pays à le faire en Afrique. L'Assemblée nationale a voté la loi régissant la crypto-monnaie et le président Faustin Archange Touadéra l'a promulguée à Bangui. Au 63e jour de l'invasion russe en Ukraine, les autorités pro-russes de la région séparatiste de Moldavie font état ce mercredi après-midi des tirs en provenance du territoire ukrainien. Pendant ces temps, le chef de l'État, Vladimir Poutine, affirme que les objectifs de la Russie seront remplis quoi qu'il arrive. Désormais, 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies devront justifier leur recours au veto. La Chine, la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont les seuls pays à disposer du droit de bloquer une résolution des Nations Unies. La réforme qui a été adoptée à New York hier était envisagée depuis plusieurs années, mais l'idée a été relancée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui est championne du veto.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du collectif des organisations de défense des droits et intérêts des jeunes Congolais, Jean Bedel Ilunga, se réjouit du dépôt à Kinshasa, à l'Assemblée nationale précisément, de la proposition de loi contre le chômage des jeunes en RDC. Il s'entretient à ces sujets avec Dona Madimba.
Jean Bedel Ilunga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Que les jeunes Congolais réclament la réduction, voire l'élimination du chômage des jeunes est sans aucun doute, sans débat. Mais pourquoi estimez-vous qu'en 2022, à un an des élections générales en République démocratique du Congo, l'adoption d'une loi contre le chômage des jeunes est une urgence, puisque vous le dites dans le mémorandum que vous venez de déposer à l'Assemblée nationale?
Cela est une urgence, pourquoi? Parce que si vous regardez actuellement le niveau de la souffrance que connaissent les jeunes, en tout cas cela pousse certains à comprendre que non, nous n'avons pas de place dans ces pays.
Pouvez-vous nous donner deux ou trois exemples de la souffrance dont vous faites allusion ici?
Oui, bon, l'exemple le plus récent, c'est la montée des prix des carburants dans les pompes.
Mais cela n'affecte pas que les jeunes, ça affecte toute la population.
Mais la plus grande catégorie qui est affectée par cette augmentation des prix, c'est la catégorie jeune.
Jeunes, comment et pourquoi?
Qui sont dans le secteur des transports, par exemple, en souffrent, notamment les motards, c'est là qui sont dans les taxis bis, et aussi les transports réguliers qui assurent au moins le déplacement des personnes de leurs biens dans toutes les contrées de notre pays. La plupart, ce sont des jeunes. Alors, c'est cette catégorie-là qui est beaucoup plus affectée. Or, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve au moins un grand nombre de jeunes.
Alors, il y a tout un débat autour de la jeunesse, des jeunes.
Oui.
Quand vous évoquez les jeunes et quand vous parlez du chômage des jeunes, c'est quelle catégorie de personnes à qui vous faites allusion?
Voilà pourquoi même la quintessence de cette proposition de loi qui est proposée par l'honorable Justin, la proposition de loi dans son article 2e au point 7 détermine la tranche d'âge durant laquelle on peut être appelé jeune par rapport à d'autres lois qu'on
a. Vous faites allusion à l'honorable Justin Mastaki.
Mastaki, oui. Alors, ces points-là stipulent que non, est jeune toute personne âgée de 18 à 45 ans. Ce qui n'était pas le cas dans notre pays jadis. Parce que lorsqu'il s'agissait des intérêts des jeunes, et les vieux se considéraient toujours comme jeunes. Et finalement, ce sont eux qui s'accaparaient de toutes les dividendes qui étaient pourvus aux jeunes.
Mais la détermination de l'âge final à 45 ans, à mon avis, hein, vous me contredirez si je ne dis pas la vérité, ne semble pas avoir résolu le problème, non? Puisque de nombreuses autorités de la RDC, qui ont dirigé d'ailleurs ce pays, étaient dans cette catégorie. On peut citer le président Mobutu, le président Kabila, on peut citer des animateurs du Parlement comme Olivier Kamitatou, Thomas Luaka, étaient tous dans cette catégorie qu'on venait de définir. Mais pourquoi leur présence et leur action et leur mandat n'ont pas révolutionné ou mis fin à ce problème du chômage des jeunes?
Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une loi. Il n'y avait pas un soubassement juridique pouvant les contraindre à accepter d'appliquer ce qui revient de droit aux jeunes.
Pouvez-vous nous donner les quelques contraintes que la loi va mettre en action pour pouvoir favoriser la fin du chômage des jeunes?
Voilà, la loi prévoit premièrement, on met fin à toute conditionnalité liée à l'employabilité des jeunes. C'est notamment les fameuses expériences professionnelles que les jeunes doivent brandir ça et là avant tout emploi. En tout cas, la loi est stricte là-dessus. Donc aucun jeune ne doit être contraint à exhiber une expérience professionnelle même de 0 mois pour être recruté quelque part. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que la loi prévoit un fonds qui sera alloué à tout projet entrepreneurial de jeunes.
Jean Bédel, il y a donc tout un grand espoir
voilà.
Pour les jeunes à voir cette loi être adoptée.
Et
espérons justement que ça le soit le plus rapidement possible. Mais comme il y a toujours des mains de la vie, Jean Bédel Ilunga, si jamais, malgré l'existence de la proposition de loi et malgré votre mémorandum pour mettre la pression, aucune loi n'est finalement adoptée dans ce sens. Qu'est-ce que votre organisation et les organisations de défense des droits des jeunes, qu'allez-vous faire?
Alors nous demandons tout simplement à nos autorités, à nos députés de pouvoir adopter cette proposition de loi lorsqu'elle sera alignée. Au bureau de l'Assemblée nationale, de tout faire pour aligner cette proposition de loi, qui du reste demeure la meilleure proposition de loi sociale qui ait existé jusque-là dans notre pays. En tout cas, ça c'est pour le compte des jeunes. Au cas où on n'arrivera pas à les faire, les jeunes vont faire ce que les autres font. Peut-être des sit-ins, nous allons faire des manifestations citoyennes des jeunes. On doit continuer à faire des plaidoyers, à maintenir la pression sur les autorités pour que cette proposition de loi soit alignée à l'ordre du jour.
Président du collectif des organisations de défense des droits et intérêts des jeunes Congolais, Jean Bédel Ilunga, je vous remercie.
Je vous en prie, merci les journalistes.
C'était l'invité de Radio Okapi, interrogé par Donna Mandimba. Ainsi se referme ce journal. Merci d'avoir écouté. Chapeau à Alain Rungmouchige qui en a assuré la supervision éditoriale. Retrouvez-les sur www.radiookapi.net.